Chapitre 10. Maggie se conduit plus mal qu'elle ne s'y attendait. L'objet effrayant qui fit ainsi époque dans la vie de l'oncle Polyte n'était autre que la petite Lucy, ayant tout un côté de sa personne, depuis son petit pied jusqu'au sommet de son chapeau, mouillé et couvert de boue, tenant en l'air deux petites mains noircies et faisant très piteuse figure. Pour rendre raison de cette apparition sans antécédent dans le salon de tante Polyte, il nous faut retourner au moment où les trois enfants sortirent pour aller jouer et où le petit démon qui avait pris possession de l'esprit de Maggie dès le commencement du jour était revenu avec plus de force après une absence momentanée. Tous les pénibles souvenirs de la journée s'étaient accumulés en elle. Lorsque Tom, dont le déplaisir à son égard avait été considérablement réveillé par l'action ridicule de lui faire répandre son vin de prime vert, dit « Allons, Lucy, viens avec moi, toi », et la mena avec lui vers un soupirail d'où l'envoyaient les crapauds, comme s'il n'existait point de sœur pour lui. Maggie, en voyant cela, les suivit à distance, semblable à une petite méduse au serpent coupé. Lucy avait naturellement du plaisir à ce que Tom fût si bon pour elle, et c'était très amusant de le voir chatouiller un gros crapaud avec un bout de ficelle, le crapaud étant en sûreté dans son souterrain et derrière une grille. Toutefois, Lucy désirait que Maggie jouît aussi du spectacle, d'autant plus que celle-ci trouverait bien certainement un nom pour le crapaud et une histoire à raconter sur son passé, car Lucy avait une délicieuse demi-croyance au récit de Maggie sur les objets vivants qu'elle rencontrait par hasard, à savoir comment Madame Perce-Oreille faisait la lessive à la maison quand un de ses enfants était tombé dans l'eau bouillante et que c'était pour cela qu'elle courait si vite chercher le docteur. Tom avait un profond mépris pour ces absurdités et commençait par écraser le Perce-Oreille, comme un moyen superflu mais facile de prouver l'entière fausseté de cette histoire. Toutefois, Lucy ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait là quelque chose, et en tout cas elle trouvait ces suppositions très amusantes. Aussi, maintenant, le désir de connaître la vie passée d'un si majestueux crapaud, ajouté à sa sympathie habituelle, la fit retourner en courant vers Maggie et lui dire « Oh, il y a un si gros et curieux crapaud, Maggie, viens le voir !» Maggie ne dit rien, mais se détourna avec l'air encore plus refrogné. Aussi longtemps que Tom semblait lui préférer Lucy, celle-ci participait à sa malveillance. Maggie aurait supposé, peu de temps avant, qu'elle ne pourrait jamais être rude pour la petite Lucy, pas plus qu'elle ne pourrait être cruelle pour une petite souris blanche. Mais alors Tom se montrait indifférent pour sa cousine, et c'était Maggie qui s'en occupait. Pour le moment, elle commençait vraiment à penser qu'elle pourrait trouver du plaisir à faire pleurer Lucy en la frappant ou en la pinçant, surtout parce que cela ferait de la peine à Tom, qu'il ne servirait à rien de le frapper, lui, même si elle l'osait, parce qu'il n'y ferait pas attention. Et si Lucy n'avait pas été là, Maggie était sûre qu'il se serait plus vite réconcilié avec elle. Chatouiller un gros crapaud qui n'est pas excessivement sensible est un divertissement facile à épuiser, et Tom en vint bientôt à chercher autour de lui quelque autre manière de passer le temps. Mais dans un jardin si soigneusement tenu, où il ne devait pas sortir des allées pavées, il n'y avait pas un grand choix d'amusement. Le seul plaisir qu'offrit une semblable restriction était celui de l'enfreindre, et Tom commença à méditer une visite défendue à l'étang, dans le champ plus loin que le jardin. « Écoute, Lucy, commença-t-il en secouant la tête de haut en bas, avec beaucoup de signification, comme il enroulait son cordon, que penses-tu que je veuille faire ?»« Quoi, Tom ?» dit Lucy avec curiosité. « Je veux aller à l'étang et regarder le gros brochet. Tu peux venir avec moi si tu veux, » dit le jeune sultan. « Oh, Tom, iras-tu ? » dit Lucy. « La tante a dit que nous ne devions pas sortir du jardin. » « Oh, je sortirai par l'autre bout du jardin, » dit Tom. « Personne ne nous verra. Et puis ça me sera bien égal. Je me sauverai à la maison. » « Mais moi, je ne puis courir, » dit Lucy, qui n'avait encore jamais été exposée à une semblable tentation. « Oh, qu'est-ce que ça fait ? Ils ne seront pas sévères pour toi, » dit Tom. « Tu diras que je t'ai emmené. » Tom se mit en route, et Lucy trotta à côté de lui, jouissant timidement du rare plaisir de faire quelque chose de défendu. Entraîné aussi par la pensée de cette merveille, le brochet, au sujet de laquelle elle était très incertaine de savoir si c'était un poisson ou un volatile. Maggie les vit quitter le jardin et ne put résister à la tentation de les suivre. La colère et la jalousie ne peuvent, pas mieux que l'amour, supporter de perdre de vue leur objet. La pensée que Tom et Lucy pussent voir ou faire quelque chose qu'elle ignorerait eût été intolérable pour elle. Aussi se tint-elle quelques pas en arrière, sans être remarquée par Tom, qui, pour le moment, était trop occupé à chercher le gros brochet. Un monstre des plus intéressants. On le disait si vieux, si gros, et doué d'un appétit si extraordinaire. Le brochet, comme d'autres célébrités, ne se montrait pas quand on l'épiait. Mais Tom aperçut quelque chose qui se mouvait rapidement dans l'eau, ce qui l'attira à une autre place au bord de l'étang. « Ici, Lucy, » dit-il à voix basse, « viens ici, prends garde, reste sur l'herbe. Ne va pas là où les vaches ont passé, » ajouta-t-il, en lui montrant un promontoire d'herbe sèche avec de la boue foulée de chaque côté. Car l'opinion peu flatteuse qu'il avait d'une petite fille lui attribuait l'incapacité de pouvoir marcher dans la boue. Lucy vint avec précaution, comme il le lui disait, et se baissa pour regarder ce qui ressemblait à la pointe dorée d'une flèche saillante hors de l'eau. C'était un serpent d'eau, à ce que dit Tom, et Lucy put voir enfin la ligne serpentante de son corps, très étonnée qu'un serpent pût nager. Maggie s'était de plus en plus rapprochée, et il fallait qu'elle vît aussi, quoique cela lui fût tout aussi pénible qu'autre chose, puisque Tom ne s'inquiétait pas d'elle. Enfin, elle fut tout à fait près de Lucy, et Tom, qui l'avait bien vue s'approcher, mais n'avait pas voulu la remarquer jusqu'à ce qu'elle y fût forcée, se retourna et dit « Allons, ôte-toi de là, Maggie. Il n'y a pas de place pour toi sur l'herbe ici. Personne ne t'a demandé de venir. » Il y avait assez de passion en guerre chez Maggie, dans ce moment, pour faire une tragédie, si les passions suffisaient pour cela. Mais l'essentiel, qui se trouvait pour la passion, manquait pour l'action. Tout ce que put faire Maggie fut de pousser, de toute la force de son petit bras brun, la pauvre innocente rose et blanche Lucy dans la boue foulée par les vaches. Tom ne put se contenir alors et donna à Maggie deux violents coups sur le bras, en courant relever Lucy, qui pleurait piteusement. Maggie se retira vers les racines d'un arbre et regarda sans remords. Ordinairement, elle se repentait très promptement après quelque action de violence. Mais maintenant Tom et Lucy l'avaient rendue si malheureuse qu'elle était contente de gâter leur bonheur, contente de mettre tout le monde mal à l'aise. Pourquoi serait-elle fâchée? Tom ne lui avait pas pardonné, quelque peinée et triste qu'elle eût pu être. « Je le dirai à maman, tu sais, Miss Meg, » dit Tom à voix haute et énergique, aussitôt que Lucy fut relevée et prête à repartir. Ce n'était pas l'usage de Tom de « rapporter ». Mais ici, la justice demandait que Maggie fût punie le plus sévèrement possible. Non que Tom eût appris à voir les choses sous cette forme abstraite. Il ne prononçait jamais le mot « justice » et n'avait pas l'idée que son désir de punir pût être décoré de ce beau nom. Lucy était trop entièrement absorbée par le malheur qui lui était survenu, la perte de ses plus jolis vêtements et le désagrément d'être mouillée et crottée, pour en rechercher la cause, qui était pour elle un vrai mystère. Elle n'aurait jamais deviné ce qu'elle avait pu faire pour fâcher Maggie contre elle. Mais elle trouvait que Maggie était méchante et fort désagréable, et ne fit point de supplications magnanimes à Tom pour qu'il voulût bien ne pas parler. Et elle se contenta de courir à côté de lui en pleurant, tandis que Maggie, assise sur les racines de l'arbre, les suivait de l'œil avec son petit visage de méduse. « Sally !» dit Tom quand ils arrivèrent à la porte de la cuisine. Et Sally les regarda muette d'étonnement, un morceau de pain et de beurre à la bouche, et tenant une fourchette à rôtir le pain. « Sally, dites à maman que c'est Maggie qui a poussé Lucy dans la boue. »« Mais le Seigneur nous protège. Où avez-vous pu trouver une semblable boue ?» dit Sally, faisant une grimace de dégoût et se baissant pour examiner le corpus delicti. L'imagination de Tom n'avait pas été assez prompte et assez habile pour renfermer cette question dans les conséquences prévues. Mais elle ne fut pas plus tôt posée qu'il en découvrit la portée et comprit que Maggie ne serait pas considérée comme la seule coupable. Il s'éloigna tranquillement de la porte de la cuisine, laissant à Sally ce plaisir de deviner que les esprits actifs préfèrent à la science toute faite. Sally, comme vous le savez déjà, ne perdit point de temps avant de présenter Lucy à la porte du salon, car l'introduction d'un objet aussi sale dans la maison des pins de Garum était un poids trop lourd à supporter pour un seul esprit. « Bonté du ciel !» s'écria tante Poulet, après avoir préludé par un cri inarticulé, « Gardez-la à la porte, Sally. Ne la laissez pas quitter la toile cirée, quoi qu'elle veuille faire. » Mais elle est tombée dans quelque horrible boue, dit Madame Tulliver, en allant vers Lucy pour examiner à quel point étaient gâtés les habits dont elle se sentait responsable vis-à-vis de sœur Dean. Avec votre permission, madame, c'est Miss Maggie qui l'a poussée dedans, dit Sally. Maître Tom est venu le dire, et il faut qu'il soit allé vers l'étang, car ce n'est que là qu'ils ont pu trouver une telle saleté. Voilà ce que c'est, Bessie. C'est ce que je te disais, dit Madame Poulet d'un ton de tristesse prophétique. Ce sont tes enfants. On ne peut savoir où ils en viendront. Madame Tulliver restait muette et se trouvait une mère vraiment infortunée. Comme à l'ordinaire, elle était oppressée par la pensée que les gens croiraient qu'elle avait fait quelque chose de mal pour mériter ses chagrins maternels, tandis que Madame Poulet commençait à donner des directions détaillées à Sally pour mettre le vestibule à l'abri de quelques dangers en nettoyant cette boue. Pendant ce temps, la cuisinière apporterait le thé et les deux enfants qui s'étaient mal conduits prendraient ignominieusement le leur à la cuisine. Madame Tulliver sortit pour aller parler à ces méchants enfants, supposant qu'ils étaient près de là. Mais ce ne fut qu'après quelques recherches qu'elle trouva Tom appliqué contre la palissade blanche du poulailler, ayant l'air fort insouciant et faisant pendre sa ficelle de l'autre côté comme un moyen d'exaspérer le coq d'Inde. « Tom, méchant garçon, où est ta sœur ?» dit Madame Tulliver d'une voix désespérée. « Je ne sais pas, » dit Tom. Son désir de justice à l'égard de Maggie avait diminué depuis qu'il avait vu clairement qu'on pouvait à peine la condamner sans le blâmer de sa propre conduite. « Mais où l'as-tu donc laissée ?» dit sa mère, en regardant autour d'elle. « Assise sous l'arbre vers l'étang, » dit Tom, avec l'air indifférent à tout, excepté à sa ficelle et au coq d'Inde. « Alors va la chercher immédiatement, méchant enfant. Et comment as-tu pu aller vers l'étang et mener ta sœur où il y a de la boue? Tu sais bien qu'elle fait des sottises partout où l'on peut en faire. » C'était la manière de Madame Tulliver, quand il fallait blâmer Tom, d'attribuer les conséquences de sa mauvaise conduite d'une manière ou d'une autre à Maggie. L'idée de Maggie, assise toute seule vers l'étang, éveilla une crainte habituelle de sa mère, qui atteignit le perron pour se rassurer elle-même par la vue de cette terrible enfant, tandis que Tom se rendait, pas très promptement, de ce côté-là. « Ce sont de si terribles enfants pour l'eau que les miens, » dit-elle à haute voix, sans réfléchir qu'il n'y avait personne pour l'entendre. « On me les rapportera quelque jour morts et noyés. Je voudrais que cette rivière fût bien loin. » Mais lorsque non seulement elle ne put distinguer Maggie, mais qu'elle vit Tom revenir seul de l'étang, cette crainte qui la dominait s'empara complètement d'elle, et elle se hâta d'aller à sa rencontre. « Maggie n'est nulle part vers l'étang, » dit-il. « Elle s'en est allée. » Vous pouvez concevoir quelles sérieuses recherches on fit de Maggie, et la difficulté qu'on eut à convaincre sa mère qu'elle n'était pas dans l'étang. Madame Poulet observa que l'enfant pourrait en venir à faire une plus mauvaise fin si elle vivait. On ne pouvait le savoir. Et M. Poulet, confondu et accablé de ce caractère révolutionnaire des choses, le thé retardé et la volaille alarmée par ses allées et venues inaccoutumées, prit une clé pour ouvrir le poulailler, comme étant un endroit où Maggie aurait probablement pu se cacher. Tom, au bout de quelque temps, émit l'idée que Maggie était retournée à la maison, sans juger nécessaire de dire qu'il l'aurait fait lui-même en pareille circonstance. Et cette suggestion fut saisie par sa mère comme une consolation. « Sœur, pour l'amour de Dieu, fais mettre le cheval à la voiture pour nous reconduire chez nous. Nous la trouverons peut-être sur la route. Lucy ne peut pas marcher avec ses vêtements sales, » dit-elle, en regardant l'innocente victime enveloppée d'un châle et assise pieds nus sur un sofa. Tante Poulet ne demandait pas mieux que de trouver les moyens les plus prompts de remettre ses appartements en ordre et en repos. Et au bout de peu de temps, Madame Tulliver se trouva dans la voiture, regardant avec inquiétude au plus loin devant elle. Que dirait le père si Maggie était perdue? Cette question dominait toutes les autres.